et Demain, une création radiophonique de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. L'horloge tourne. Quelle agriculture pour demain ?
Et demain, pour se nourrir en France et dans le monde, quand réalisera-t-on que l'agroécologie est plus qu'indispensable pour vouloir une agriculture durable dans le temps ?
Optons pour une agriculture durable parce que le changement climatique nous a fait comprendre que les ressources ne sont pas éternelles, elles sont épuisables.
Bonjour, moi je m'appelle Kierno Yaya Diallo, j'ai 25 ans, je suis originaire de la Guinée-Conakry. Là, je suis en licence professionnelle ZENA que j'ai intégrée ce début d'année. Mes parents sont agriculteurs, donc depuis le début, j'étais dans le domaine, bien que je n'avais pas cette compétence. Juste après ma licence, j'ai eu l'envie de poursuivre mes études dans ce domaine, avoir plus de savoir-faire et tout. C'est après que je suis parti en Ukraine dans ce sens. J'étais à ma première année, malheureusement, il y a eu la guerre et tout. Après, je suis venu en France. Après, je suis arrivé, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me correspondait de plus, qui s'inscrivait dans la même logique que ce que j'ai déjà fait. C'est là que j'ai trouvé la licence ZENA et voilà quoi, je me retrouve ici. Ouais.
Moi, je m'appelle Mathieu Moreau, je suis originaire du département de la Vienne. Donc, j'ai réalisé mes études pour commencer. Donc, j'ai fait un bac pro GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune, donc dans un département plutôt céréalier et élevage ovin bovin. Après, j'ai réalisé par la suite un BTS GPN, gestion protection de la nature, dans le département du Loir-et-Cher, en Petite Beauce, donc une région pleinement céréalière. Pour continuer, je réalise ma poursuite d'études en Lozère, au Supagro de Florac, en option GENA.
Je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans et je suis étudiant à la licence professionnelle GENA de l'Institut Agro basé sur le site de Florac. Franchement, j'étais totalement désintéressé, ça ne m'intéressait pas forcément de base, je connaissais pas du tout en fait. Et j'ai découvert ça au fur et à mesure avec le DUT. Et ça m'a intéressé et c'est là que j'ai compris vraiment les enjeux que ça avait de connaître ce monde-là et que c'était quelque chose de très important qui nous impactait tous et qui impactait aussi notre environnement plus que ce qu'on le pense.
Je m'appelle Claire Ergotte, je suis formatrice à l'Institut Agro à Florac depuis 2007. Ça fait 15 ans que je suis ici. Quand je suis arrivée, c'était le tout début de notre intégration avec Montpellier Supagro, une école d'ingénieurs. Et c'était le début de la licence professionnelle GENA qui a été créée en 2006. Quand je suis arrivée, c'était très innovant de travailler sur le lien agriculture-environnement. On ne parlait pas encore beaucoup d'agroécologie, alors que voilà, maintenant aujourd'hui ça paraît un petit peu normal qu'ici à Florac on forme des étudiants à l'interface du secteur professionnel de l'agriculture et de celui de l'environnement et de l'écologie. Je crois que le point principal sur lequel on insiste, c'est vraiment l'accompagnement. Et que ça soit notre accompagnement à nous ou la posture d'accompagnement que les étudiants peuvent adopter lorsqu'ils travaillent avec des agriculteurs, des fermiers, des paysans. Cette posture d'accompagnement, elle passe un petit peu par une posture d'humilité et d'écoute pour vraiment se mettre à la place et comprendre les enjeux et les besoins des paysans avec lesquels les étudiants vont faire soit un exercice comme le diagnostic, soit ensuite quand ils sont en stage ou en activité professionnelle. Ils accompagnent souvent des collectifs. Donc voilà, moi je pense que le principal point, c'est cette écoute et cette compréhension de l'autre.
L'image que j'avais de l'agriculture, c'était pour moi, l'agriculture, ça ne nécessitait pas de compétences, c'est ce que moi je me disais, parce que moi j'ai grandi dans un petit village avec mes parents qui faisaient l'agriculture. Pour moi, il fallait juste venir s'aimer et puis tout va pousser. Ça ne demande pas des compétences.
Et tout, c'est après que j'ai fait mon bac. J'ai commencé à faire des recherches un peu partout. Je connaissais pas mal de gens qui travaillent dans le domaine, qui ont fait des études là-dessus et qui me parlaient pas mal de l'agriculture. C'est après ça que j'ai eu l'envie de vraiment connaître ce domaine, avoir plus de compétences pour vraiment être un acteur dans ce domaine, bien sûr, avec des compétences. Et c'est là que ma passion de venir étudier est née, en fait. J'ai un projet déjà, c'était la raison qui a fait que j'ai plus bougé en Guinée. Parce que moi, mes parents, comme je l'ai dit, ils ont des exploitations. Là, il y a mes frères qui s'en occupent. Mais sauf que nos exploitations, nos productions sont plutôt uniquement destinées à la consommation familiale. Moi, j'ai voulu élargir ça, avoir des revenus dessus et tout. Après, c'est pour ça que j'ai décidé de venir étudier pour reprendre ces exploitations-là. Pas que produire, parce que produire, on le faisait depuis le début, mais produire tout en respectant ici les normes environnementales. Parce que moi j'opte plus pour une agriculture durable. C'est d'ailleurs pour ça que je suis plutôt agriculture environnement, agro-environnement dans l'agroécologie. Pour moi c'est parce qu'on a assez de ressources, mais pour moi si on continue à faire la même chose que ce que nos parents faisaient tout le temps, ce qu'au final on va porter préjudice sur l'avenir, la génération à venir en fait. J'ai plutôt opté à produire, en même temps conserver nos milieux naturels pour continuer à produire et laisser quelque chose pour la génération à venir. Moi, mes peurs, pour l'agriculture particulièrement, je vais plutôt me baser sur mon pays, c'est là que je connais plus. C'est plutôt lié au changement climatique, ça impacte beaucoup maintenant. Plutôt nous, on est, jusqu'à présent, on est sur de l'agriculture vraiment avec des petits espaces, une agriculture plutôt manuelle, on n'a pas encore assez embrassé la mécanisation agricole. Mais plus grande crainte aujourd'hui, c'est lorsqu'on aura accès à ces mécanismes agricoles, est-ce qu'on va respecter, est-ce qu'on ne va pas faire comme les autres, c'est-à-dire que c'est basé seulement sur la production, produire, continuer à produire sans faire attention à ce qui nous entoure, c'est-à-dire à l'environnement. Pour moi, ça, c'est vraiment une crainte.
Bon, Yaya, on part sur le terrain.
Allez, c'est parti.
Là, on est là où on fait nos diacs. C'est le monde de tous. C'est dans l'exploitation des camines, plus une immersion dans le milieu professionnel. Il faut savoir que tout au long de l'année, on aura une posture d'accompagnement. On doit l'accompagner dans ses différentes tâches, faire des analyses dans ses exploits, la mise en place de nos outils qu'on a mis en classe. Et là, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec elle, voir les problématiques qu'elle a, et éventuellement, à la fin, lui faire des préconisations à travers les analyses qu'on aura déjà faites sur le terrain, utiliser les différents outils en classe. Tout ça, on va pouvoir trouver une approche qui va l'aider à résoudre les problématiques qu'on a déjà énumérées avec elle. À la fin, je crois au mois de février, il y aura une restitution. Voilà quoi, c'est ça l'objectif. Ouais. Là, nous sommes au début. Là, c'était plutôt les analyses, déterminer les différents habitats, avoir la ressource, faire l'état de conservation des milieux à travers, c'est-à-dire que ce soit le pâturage juste, l'IDEA 4. L'IDEA 4, c'est un outil qui permet ici, de manière générale, d'évaluer la durabilité d'une exploitation.
Bonjour, Camille.
Enchantée, Camille.
C'est une exploitation traditionnelle des Cévennes. On fait du lait. Enfin, je fais du lait pour la coopérative, la fromagerie des Cévennes, pour faire du Pélardon. Alors, donc, ils m'ont dit que ce serait un groupe d'élèves qui travaillerait pendant toute l'année sur l'exploitation. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est toujours bien d'avoir de discuter, d'avoir un avis extérieur. Oui, toutes les discussions sont intéressantes. En plus, comme dans leur classe, les autres élèves vont dans d'autres exploitations, ça leur permet aussi des échanges qui peuvent revenir ici. Mmh. Et puis, ils m'ont demandé d'avoir un sujet à étudier en particulier. Et donc, on est parti sur les arbres fourragers. C'est quelque chose sur lequel je m'interroge depuis quelques temps. Et puis, plus ça va, plus je pense que c'est une option intéressante pour faire face au changement climatique et aux sécheresses qu'on a pendant l'été. Il faut voir que pendant l'été, en plus des fortes chaleurs qui incommodent les chèvres, il n'y a plus d'herbe, tout est grillé. Il reste la feuille. C'est un fourrage qui est très appétant, donc ça va les motiver à manger. Et c'est un fourrage qui est riche et qui est disponible toute l'année.
Est-ce que vous êtes confiant pour demain ?
Moi, je suis de nature optimiste, donc oui. Je pense qu'il faut s'adapter. Le changement climatique, même si on est tous responsables à notre échelle, on va être obligé de faire avec. En revanche, ce qui est de notre ressort, c'est d'adapter nos systèmes à ce changement. Il me semble que c'est quand on a les plus grosses crises et les moments les plus difficiles qu'on va rechercher la ressource pour s'adapter. Là où je suis confiante, c'est qu'en Cévennes, on a une agriculture de qualité qui est déjà peu artificialisée. Donc je pense que c'est vers ça que doit s'orienter l'agriculture de demain, pour pouvoir résister justement à aux différents changements, pas que climatiques.
L'image que j'avais du monde agricole avant de rentrer dans la formation GENA, donc dans Lozère, pour moi, une exploitation agricole pouvait fonctionner donc que par les modèles un peu bio, mais également conventionnels. Je pensais pas, avant d'arriver en Lozère, qu'on pouvait avoir des petites exploitations et être viable et faire vivre plusieurs personnes sur une ferme en ayant 40 chèvres laitières, par exemple, ou même une trentaine de chèvres laitières. Et donc, arriver dans un département montagneux, on va dire, avec peu de surface au sol cultivé, donc comme des céréales ou des prairies ou des petites prairies, mais beaucoup de boisements, je me suis rendu compte qu'on peut s'adapter à son milieu et avoir des pratiques surtout respectueuses de l'environnement. Moi, mon projet, donc je suis vraiment passionné par l'agriculture. Ma famille est dans l'agriculture, en Charente. J'aimerais plus tard peut-être avoir ma propre ferme plus axée sur l'élevage bovin, donc en élevage biologique, en vallée de la Charente, sur l'ancienne exploitation de mon grand-père. En fin de compte, pourquoi avoir mon exploitation ? Enfin, pour avoir mes propres choix et réaliser mes propres actions pour l'environnement et être un peu maître de moi-même, en fait. Alors, mes craintes pour l'agriculture, c'est l'intensification, bien sûr. Même si demain, il va falloir nourrir le monde. L'intensification et le désintérêt de l'environnement et de toutes les choses qui les entourent, donc la faune, la flore, la destruction des milieux humides avec le drainage. Parce que maintenant, on voit plein de choses hallucinantes, pour moi hallucinantes, comme pour les projets de bassines, par exemple comme pour chez moi, la vallée du Clain. Les projets de bassines sont pour moi une aberration pour l'agriculture. Je pense que des modèles comme la Lozère ou des régions montagneuses où les ressources ne sont pas forcément abondantes, nous permettent de prendre conscience des chances que nous pouvons avoir, surtout comme dans des régions de plaine comme la Charente, la Vienne, la Normandie, la Bretagne.
On était sur le terrain avec Yaya, on part avec toi.
Ok.
Alors là, on est à Nogardel, côté de Bar-des-Cévennes, sur une ferme caprine. Donc ils ont un peu plus d'une cinquantaine d'hectares, principalement en parcours chênais et puis surtout châtaigneraie. Ils ont un peu plus de 7 hectares de prairies. Donc c'est des prairies permanentes. Concernant l'autonomie fourragère, c'est quasiment tout en achat, comme du foin de croc par exemple. Sinon, les animaux sont toute l'année dehors quasiment. Bah, forcément, quand il y a des intempéries, de la pluie, des pluies fortes, ils sortent pas. Mais sinon, c'est parcours libre. Donc là, la problématique, on a notre UG en contrebas. Et la problématique, c'est le double pâturage avec la faune sauvage en fait. Donc plus particulièrement à cause des cervidés. Donc pâturage des chèvres la journée, et pâturage des cervidés, donc des cerfs et des biches, la nuit en fait. Donc rendement des prairies faibles et puis appauvrissement de la prairie, en gros.
Salut, Alice. Nous on s'est installé, on a commencé à bosser sur la ferme il y a 2 ans et demi. Et en fait on s'installe officiellement en janvier 2023. Là on était en transmission, donc on a vraiment fait une transmission progressive pour être sûr de ce qu'on voulait faire, pour commencer à apprendre. Apprendre à travailler ensemble avec Antonin aussi. Et maintenant, ça devient officiel. Tout en bio, légumes, fromages. Et on a aussi la mention Nature et Progrès, qui est une mention un peu plus engagée en termes de pratique. Et puis aussi un système de garantie participative qui fait que c'est un échange avec les autres agriculteurs et les consommateurs qui permet de vérifier qu'on est bien dans les clous du cahier des charges. Donc c'est un peu plus humain que juste le bio. Les plus grosses inquiétudes au début, c'était est-ce qu'on est capable de faire ça. D'abord par rapport à l'astreinte que ça représente, à la charge de travail. Pour moi, le côté physique, les premiers mois, premières années ici, c'était dur le soir en rentrant chez moi. Et après aussi, c'est un peu d'un point de vue administratif, c'est qu'on est quand même une très petite exploitation par rapport aux standards départementaux et nationaux. Et on ne savait pas si ça allait être vraiment accepté. Enfin, jusque-là, les institutions ne pensaient pas que c'était possible de vivre à deux sur une exploitation telle que la nôtre. Donc c'est 30 chèvres, 30 hectares, c'est quand même une petite exploitation.
l'exploitation.
Là, c'est Bébert, vous voyez, le papa d'Antonin, qui nous a tout appris. Ce qui était le plus dur, je pense, c'est que en fait, y a toujours de nouvelles choses à gérer. Et c'est que dans l'apprentissage, c'était d'accepter qu'on pouvait pas être à aucun moment dans un rythme de croisière. Il y a toujours des nouveaux trucs à gérer, que ce soit la santé du troupeau, des problèmes en fromagerie. C'est plutôt une prise de conscience qu'un apprentissage, c'est de dire bon, ben voilà, faut s'y faire. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je me vois toujours avec ce lieu de vie qui est quand même assez dynamique parce que on est plusieurs à vivre sur les lieux ou autour du lieu. C'est à la fois le lieu de travail, mais c'est aussi un endroit où on partage beaucoup. Et donc je vois encore ce lieu comme très vivant, avec des améliorations qui nous permettront d'avoir un travail un peu plus confort, enfin des conditions de travail un peu plus confortables et peut-être un peu moins physiques.
Confiante pour demain ?
Ouais, super confiante.
Maintenant, là, en 2022, on est à un peu plus de 300 diplômés de la licence GENA, gestion agricole des espaces naturels ruraux. Dans notre suivi de l'insertion professionnelle, on a un peu plus de la moitié des étudiants qui se sont installés en agriculture.
Quand tu vois celles qui arrivent là, ces dernières années, est-ce que t'es confiante pour la pratique de l'agriculture à l'avenir ?
Alors oui, alors moi c'est vrai que j'ai pas vu exactement les 15 promos parce que j'ai eu des petits j'étais en congé mater certaines années tout ça, mais globalement ouais, je les ai tous à peu près suivis. Et cette année, ben je pense que oui, il y a une sensibilité, je sais pas si c'est depuis la crise sanitaire ou mais moi je ressens vraiment des étudiants qui ont envie d'être alignés avec les valeurs qu'ils viennent chercher dans la formation, les valeurs qu'ils portent et ce qu'ils ont envie ensuite de mettre en application dans leur boulot. Et ça, je le ressens vraiment fortement. On sent ce besoin d'alignement des valeurs.
Mes envies de travailler dans le futur, elles sont assez larges et j'ai pas vraiment d'idées définies. Ma vision du travail, elle n'est pas totalement définie, surtout dans ce domaine-là. Parce que je ne sais pas encore si j'ai vraiment envie de travailler en sortant de la licence professionnelle directement en tant que conseiller ou à faire des diagnostics d'exploitation comme on peut l'apprendre. Ou si je veux approfondir l'idée de m'installer en tant qu'exploitant agricole. Ce qui m'intéresse, ça serait plutôt découvrir beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire et en fait... d'adapter un peu une ferme par rapport à ça et avec les idées que j'ai, avec ma vision de l'agriculture et du monde qui m'entoure.
Justement, ouais. quelle est ta vision de l'agriculture pour toi demain ?
Alors, parce qu'il y a celle utopiste et il y a celle qui est un peu plus objective. On le sait tous, il y a de moins en moins d'agriculteurs et du coup de plus en plus de terrains. Les valeurs ajoutées aux produits agricoles, ils sont de moins en moins... ils sont difficiles à valoriser... Dans le contexte qu'on a ici. Après, j'ai remarqué que la Lozère, c'était un petit peu un monde qui sortait un peu du lot par rapport à ces problématiques et qui arrivait à se sortir de beaucoup de choses. Du coup, c'est inspirant. Moi, je verrais plus sur des petites exploitations, donc à petit effectif, en élevage, et plus d'exploitants sur plus de fermes en fait de manière générale et pour faire ça faut quand même redonner l'envie aux gens de faire ce métier et prouver que c'est vivable et valoriser totalement les savoir-faire et dans la réalité je sais pas si c'est la même chose. Mes craintes vis-à-vis de l'agriculture, ce serait que les modèles s'intensifient de plus en plus et que les fermes paysannes se ferment petit à petit et qu'il y ait une perte des savoir-faire, une perte des gestions des espaces naturels, qu'en fait on perde totalement les savoirs de l'agriculture plus respectueuse de l'environnement et qu'on perde cette extensivité qu'on peut retrouver ici en Lozère. Que ça soit intensif partout, même si ça sera jamais le cas, je pense, ici. Quoi.
On part sur le terrain ?
Allez. Bonjour, Siméo. totalement en Cévennes. Est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu ta ferme et ton exploitation?
Du coup, j'élève des brebis. J'ai un troupeau d'à peu près, enfin, actuellement 120 bêtes en quasi plein air intégral. Un système essentiellement au parcours et une transhumance et une période d'estive en été. J'essaie de faire des agneaux qui ne sont pas engraissés en bâtiment, donc qui grossissent lentement sur les parcours. Et ils ont au minimum 9 mois quand je les tue, et même des fois un an et demi.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'installer dans un territoire comme Ventalon en particulier ?
Moi, je suis intéressé par la question agricole depuis mon adolescence. Mais au moment de faire des choix d'orientation, je suis plus parti vers l'environnement. J'ai bossé à ce titre au Parc National des Cévennes pendant une douzaine d'années. Enfin, les dernières années, c'était sur les questions agricoles. J'étais technicien agri-environnement. Moi, en fait, à force d'accompagner des éleveurs, j'ai eu envie de faire comme eux plutôt que de les accompagner. Donc j'ai arrêté mon travail au parc pour m'installer éleveur et reprendre le flambeau de la ferme de ma compagne.
Comment tu vois ta ferme demain? Quelles sont un peu tes ambitions et tes objectifs après que tu te sois mis en GAEC par exemple?
L'objectif pour moi, c'est d'arriver à en vivre. C'est aussi de continuer à bosser dans un système qui soit respectueux de l'environnement. La base, c'est l'agroécologie, donc énormément de pastoralisme. Là, cette année, je passe en conversion agriculture biologique. Alors même si j'en respectais le cahier des charges avant, j'avais pas le logo. J'ai décidé de franchir le pas par respect pour le consommateur, qu'il soit pas obligé juste de me croire sur parole quand je dis que j'élève bien mes bêtes, mais qu'il y ait un contrôleur qui vienne vérifier ça. J'essaie d'avoir un système qui soit résilient, qui puisse continuer en cas de sécheresse, en cas de canicule. Et j'essaie d'avoir un système qui ne soit pas émetteur de gaz à effet de serre, donc un système le moins mécanisé possible, le moins d'énergie fossile à mettre en œuvre dans la production. Après, moi, je crois énormément dans une agriculture sur des fermes relativement petites, riches en emplois, et puis en agroécologie, quoi. Je pense qu'on n'a plus le loisir de faire autrement. Malheureusement, c'est pas tellement la vision de nos dirigeants actuellement, mais pour moi, c'est la solution, quoi. Le plan de Macron je sais plus quand, 2030, ou enfin bref, son plan d'investissement sur l'agriculture, c'est une agriculture génétique, robotique, numérique. Moi, je me retrouve dans aucun de ces objectifs-là, quoi. Je revendique d'avoir comme but de produire de la nourriture, et même si mon activité entretient l'espace, j'ai pas envie que ce soit une fin en soi, que ce soit une conséquence, c'est chouette, mais pour moi le but, c'est d'abord d'élever des brebis qui fassent des beaux agneaux.
Et ben merci Siméon, c'était très intéressant.
Et ben merci Mathis et bonne formation.
Je m'appelle Baptiste Arsac, j'ai 23 ans. Donc là, je suis en dernière année d'école d'ingénieur ici à l'Institut Agro de Montpellier. Moi, j'ai un parcours plutôt horticole. Donc, j'ai commencé par un BTS en production horticole. Et ensuite, voilà, j'ai intégré une école d'ingénieur. Et mon projet professionnel, c'est un peu de m'investir dans tout ce qui est les ceintures vertes autour des villes, etc. Et plutôt, voilà, accès maraîchage, donc fruits et légumes. Je suis issu du milieu agricole. Donc j'ai un papa qui est paysan semencier, c'est-à-dire qui produit des semences paysannes maraîchères, donc tout ce qui est semences de tomates, courgettes, concombres, etc. Et du coup voilà, j'ai toujours entre guillemets baigné dedans, et du coup la vocation est un peu venue naturellement, mais voilà, pour moi, avec l'évolution du monde actuel et le rôle que a l'agriculture au sein de la société, était voilà, assez important pour moi, et du coup je suis resté dans cette voie-là, quoi. D'un côté, j'avais vraiment voilà, les plus gros exploitants qui étaient autour de chez moi, entre guillemets. Et voilà, plus mon père, du coup, qui faisait son petit truc dans son coin, entre guillemets, quoi. Et oui, j'avais un peu ces deux visions-là. Et je me disais, bah, les deux modèles sont possibles à voir, voilà, les avantages, les inconvénients de chaque modèle. Et qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire ensuite. Et quel est le modèle le plus viable et adapté aux problèmes actuels qu'on a, que tout le monde connaît, de voilà, de réchauffement climatique, etc., quoi.
Et Colin, du coup, un collègue et Baptiste, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. J'ai d'abord fait un BTS en production végétale aussi, puis une licence pro dans une autre école supérieure. Puis le choix de cette spécialité en PVD pour m'orienter vers une connaissance plus profonde de l'agronomie. Et je pense que c'est vraiment le militantisme qui m'a intéressé là-dedans, qui est bien sûr peut-être des fois trop virulent ou trop important et n'apporte pas vraiment de solution, mais permet d'alerter sur des problèmes qui sont récurrents. Ces études-là, d'une certaine manière, ça permet de rester dans une, entre guillemets, insouciance étudiante, pouvoir continuer à prendre le temps de penser, de réfléchir, d'essayer des choses, sans avoir une, entre guillemets, une réalité de vie économique ou sociale qui soit un peu tranchante et dure par rapport à d'autres collègues que je peux avoir vu commencer à travailler. Je me dis, bon.
Disons que aujourd'hui, dans la culture, il y a un problème de vocation. C'est-à-dire qu'on a plus de départs en retraite que de gens qui s'installent. Donc moi, une de mes premières envies, en fait, c'est voilà, d'accompagner les porteurs de projets, donc ceux qui ont envie de s'installer en agriculture, notamment voilà, en maraîchage, parce que c'est plus mon dada. Et voilà, d'aider ces gens-là à s'installer. Après, du coup, peut-être à long terme, essayer peut-être de m'installer en agriculture, en maraîchage, voilà, avec peut-être... j'aime beaucoup cette idée de groupe, de social. Je trouve ça très intéressant de travailler avec plusieurs personnes qui ont des métiers différents, voilà, des boulangers, des gens qui transforment plus, enfin, des gens qui font plus de transformation, etc. Donc je trouve ça intéressant de faire jouer les différentes qualités et formations de chacun, histoire de, voilà, de mieux valoriser le produit au niveau local.
Ça va très vite et tout change, mais moi je pense que l'agriculture a toujours pour vocation de nourrir les personnes, autant celles qui produisent que les autres qui n'ont pas les moyens de produire. Autant que cela puisse continuer à travers des pratiques qui puissent être plus vertueuses. C'est important de regrouper les personnes qui ont envie de vivre ensemble, qui ont envie de faire des activités ensemble, qui ont envie de décider socialement, politiquement ensemble. Et que l'agriculture, ça soit une partie d'un tout, mais que ça soit pas isolé et mis en dehors des villes, dans des grands champs. Et au contraire, en fait, que ça fasse partie de l'habitat et qu'on considère qu'en fait notre environnement, c'est pas la nature qui est extérieure à nous, on fait partie en fait de ce tout-là.
J'en ai quand même quelques-unes sans être trop sceptique, mais ouais, c'est vrai que au niveau du climat, je trouve moi en tout cas qu'on va droit dans le mur et que là, même ce qui se fait au niveau voilà, de la COP27, il n'y a pas eu assez de décisions radicales qui ont été prises, et pourtant c'est ce qu'il faudrait au vu de ce que disent les scientifiques du monde entier, quoi. Et ouais, moi j'ai un peu cette crainte qu'on n'arrive pas à faire la transition agroécologique à temps. C'est aussi voilà, pour ça qu'on est là, moi et Colin, à faire cette formation pour essayer d'accélérer un petit peu ça avec nos petits moyens, quoi, guillemets. Une grosse crainte que j'ai, c'est que l'agriculture n'arrive pas à prendre le virage que ça devrait prendre. C'est compliqué de changer les filières, aussi tout ce qui est de la consommation. C'est dur d'habituer les consommateurs, mais moi le premier, hein. C'est dur d'habituer les consommateurs à changer leurs pratiques alimentaires, à commencer par la viande, qui entraîne plus de pollution et consomme plus de ressources. J'ai un peu peur aussi que voilà, que on n'arrive pas aussi à éduquer entre guillemets le consommateur pour qu'il s'adapte aussi à ces changements, puisque c'est lui aussi qui va engager tout un tas de changements, quoi. Les agro-industriels, effectivement, ils ont aussi leur part de responsabilité, hein, effectivement. Ils sont là puisqu'on leur a permis d'être là, entre guillemets. Donc c'est aussi pour moi tout ce qui est réglementation qu'il faut changer. Si ça avait été une autre entreprise, elle aurait pris sa place, entre guillemets, quoi. C'est parce qu'on leur a laissé la possibilité d'exister. Donc c'est peut-être pas par là qu'il faudrait commencer. Pour moi, après... tout ce qui est réglementation, etc., c'est aussi à revoir pour restreindre entre guillemets ces grosses firmes qui vraiment voilà, gardent un monopole et qui n'agissent pas assez à mon goût sur la transition agroécologique et qui entraînent des pratiques toujours plus voilà, de rendement, d'un système très productiviste, etc., qui n'est pas forcément très très adéquate pour la transition agroécologique. Politique, je pense moi que vraiment la transition agroécologique partira du consommateur et des producteurs qui après impacteront du coup, enfin qui du coup feront changer les politiques et les agro-industriels.
comment mes choix de consommation vont faire que telle ou telle personne dans tel pays du Sud va manquer de ressources, va manquer de moyens, va mourir de faim ou quoi que ce soit. Toutes les inégalités que ça peut créer, tous les problèmes que ça peut créer à travers l'immigration et la haine aussi que ça peut créer au sein même, oui, d'un point de vue politique, certainement qu'on peut agir et faire des nouvelles lois climat ou des nouvelles COP27. Pour moi, on n'a pas d'effet vraiment significatif à ces niveaux-là. Du coup, essayons peut-être de changer par le bas, chacun, chacune, les uns avec les autres, et peut-être qu'on pourra du coup obliger ces hommes, ces femmes au pouvoir à agir dans un sens différent. Quoi.
Quel agriculteur pour demain? Pour moi, ce serait voilà, plus de paysans, plus d'agriculteurs, plus de petites exploitations, plus de production diversifiée. Voilà, arrêter les exploitations qui dépassent des fois les 200-300 hectares. Voilà, donc, et ça, ça passe par motiver les gens à travailler dans l'agriculture, quoi, que vraiment l'agriculture, c'est ce qui nous nourrit, c'est la base des bases et qu'il va falloir y revenir à un moment ou à un autre. Que le nombre d'agriculteurs remonte enfin, quoi. Qu'on aille vers une agriculture plus agroécologique, donc voilà, qui est moins utilisatrice d'intrants, qui respecte plus le sol, plus les plantes, plus l'environnement. Et voilà, c'est un peu l'agriculture pour moi rêvée. Après, on est très loin, mais.
Moi, je pense que c'est vraiment redonner un sens et un prix juste à l'agriculture. Parce que, bien sûr, c'est pour nous nourrir, mais c'est pas uniquement un moyen de production, c'est un moyen de créativité, c'est un moyen de repos qui peut servir à plein de choses. Et après, bien sûr, on étudie plein de pratiques qui peuvent être beaucoup plus intéressantes, écologiques et durables. Et que c'est des choses qui peuvent être mises en place, mais il n'y a pas une recette miracle. Et mon rêve à moi ou mes rêves à moi, je pense que c'est plus de gens puissent s'engager et puissent participer à cette agriculture et que ça repose pas sur quelques paysans qui sont à deux doigts de se suicider tous les jours. Que les gens soient heureux de faire ça, qu'ils soient reconnus et qu'on continue à manger des choses qui nous font plaisir.
L'horloge tourne. Quelle agriculture pour demain ? Illustration sonore. L'horloge, par la fanfare des Bartas. Cette création sonore a été réalisée par Radio Pays d'Hérault et Radio Bartas dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.